8h41, c'est l'heure de l'interview de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre Elkabbach, bonjour.
Bonjour. D'abord, pour les fidèles d'Europe 1, un mot vraiment simple. Je suis très heureux, évidemment, de vous retrouver et de ce que nous allons construire ensemble, peu à peu. Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
Le 11 septembre 2001, vous étiez ministre des Affaires étrangères du gouvernement de cohabitation. Jacques Chirac était à l'Élysée, Lionel Jospin à Matignon. Les deux tours de New York vacillent et s'écroulent l'une après l'autre dans un fracas de mort. Comment réagissent à ce moment-là les gouvernants français ?
Ils ont soutenu, le président Chirac, Lionel Jospin, le gouvernement, on a soutenu la réaction qui s'est organisée après pour, annihiler la base arrière du terrorisme qui était Al-Qaïda, qui s'est installé en Afghanistan avec les talibans.
Et alors,
donc il y a eu accord... Il y a eu accord des autorités par rapport à ça, mais ce n'est pas un cas particulier à la France, parce qu'il y a une réaction unanime. Je parle au début.
Mondial.
Au début de l'affaire, non pas mondial, parce que c'est surtout occidental, mais il n'y a pas eu de critique sur le fait qu'après un attentat de ce type, qui a sidéré le monde occidental, mais qui n'est pas l'élément principal des 30 dernières années. L'élément principal, c'est la fin de l'Union soviétique. C'est la fin de la guerre froide. Et après l'Occident qui s'est cru maître du monde.
Mais
plus
est-ce
puissant,
qu'on comprend alors que c'est le début du terrorisme islamiste?
Non, ce n'est pas le début.
Dans le monde, l'expression la plus violente.
Il y avait du terrorisme islamique depuis longtemps, qui frappe d'ailleurs en très grande priorité les populations arabes ou musulmanes depuis des années.
Oui, mais pas 3000. 3000 morts et 5000 blessés.
Il y a eu des dizaines de milliers de morts avant, mais simplement ce qui a sidéré la sphère, disons, américano-globalisée, c'est que New York puisse être attaquée. C'est ça qui est sidérant, mais ce n'est pas le début. C'est ni le début ni la fin.
Mais avec cette ampleur, oui. Mais après l'effroi.
Mais symboliquement, ouais. Étant donné que le monde occidental, en tout cas, mais même le monde, pensait les États-Unis inattaquables, ça a sidéré tout le monde.
Alors après,
c'est pas le nouveau, ce serait une erreur, disons, égocentrique.
Oui,
de raconter
je
que
répète,
le début.
3000 morts d'un coup, en plein New York, dans l'Amérique capitaliste puissante, qui est considérée pour certains comme le centre du monde. Mais après l'effroi, Hubert Védrine, est-ce qu'il y a en Amérique la tentation de venger les victimes?
Non,
la sentez tout de suite?
La réaction, peu importe sur le détail, on est très 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 longtemps après, il faut essayer de dégager l'essentiel. Ça a démontré que même les États-Unis étaient attaquables. En fait, par un terrorisme islamique, violent, mené par des gens qui sont prêts à se suicider pour ça. Donc, il n'y a pas de parade complète par rapport à ça. Ça a démontré ça. Alors après, évidemment, il y a la réaction, mais qui est légitime. Ce n'est pas une histoire de vengeance, c'est beaucoup plus précis. C'est une légitime riposte pour détruire, je le répète, la base arrière d'Al-Qaïda, qui est donc en Afghanistan, parce que les talibans l'avaient laissé s'installer, pour qu'ils ne puissent pas recommencer.
Vous dites une légitime défense.
Oui, mais d'ailleurs, ça a été considéré comme tel, puisque au sein du Conseil de sécurité comme au sein du débat international, aucune puissance, pas même la Russie ou la Chine, n'a contesté ça.
Alors, une fois...
Je parle bien du début.
Oui, oui, on va y venir, on a le temps.
Pas la suite.
Une fois Ben Laden retrouvé et neutralisé...
Ah, mais ça, c'est 10 ans après.
10 ans après, de 2012 à 2014, les armées françaises quittent Kaboul. François Hollande, président de la République, le décide. Jean-Yves Le Drian, Cédric Lewandowski, les chefs militaires, l'appliquent. Mais les Américains, eux, ils sont restés jusqu'à la fin août de cette année. Est-ce que c'était une erreur?
C'est parce qu'il y a une transformation de la présence en Afghanistan. Donc au début, c'est légitime d'aller empêcher l'Al-Qaïda de recommencer. Et comme ils n'ont pas mis la main tout de suite sur Bin Laden, ils sont restés. Et c'est là où ça s'est métamorphosé peu à peu, en l'idée qu'on allait démocratiser l'Afghanistan, pour résumer.
C'est une faute.
C'est une erreur totale. On ne peut pas. Et d'ailleurs, le président Biden est d'une très grande honnêteté dans ses propos et notamment dans son discours d'il y a quelques jours, en distinguant le fait que l'Occident, tel ou tel pays, a le droit de se protéger, de répondre, mais que transformer de l'extérieur des sociétés avec le cycle qu'on a connu de 20 à 30 ans, ça ne marche pas.
Donc vous êtes un de ceux rares qui donnent raison à Joe Biden, le retour des soldats, les boys at home. Il a choisi lui l'opinion le peuple contre Washington et contre le reste du monde.
Bah donc il n'est pas isolé si le peuple américain le soutient.
Ah, oui. Mais pas le monde.
Non, le monde c'est autre chose. Non mais le monde a compris d'abord quels sont les pays qui sont capables de mener des opérations militaires pendant très 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 longtemps.
Mais le départ précipité, l'absence d'anticipation, l'abandon des milliers d'Afghans livrés à l'obscurantisme et à la charia, ça passe pour une débâcle peu glorieuse et même humiliante.
Oui, mais je conteste ces mots parce que, comment dire, aux États-Unis, il y avait la volonté de partir. Ils disaient, on a fait le job. Obama a fait le job. Au début, Bush, puis après Obama. On a éliminé Bin Laden. Ils auraient dû partir. Obama essayait de partir. Les généraux et tout le système militaire s'est accroché à lui en disant, on ne pouvait pas partir comme ça. Mais Biden était pour le départ, hein, déjà. Trump a essayé de partir. Il a même signé un accord avec les talibans. Trump.
À Doha.
Pas avec le gouvernement afghan. Hein. Il croyait déjà tellement plus au gouvernement afghan, dont on a vu qu'il s'est effondré en 24 heures, qu'il a signé l'accord avec les talibans.
Oui.
Et quand Biden arrive, il a les mains liées, en fait, par rapport à
cette
façon.
Il en parle pendant la campagne électorale américaine.
Oui, mais l'accord...
Et ensuite, il applique.
L'accord de Trump était déjà signé, par rapport à ça. Après, il le dit. Bon, la seule marge de manœuvre qu'il avait, c'était sur la date. Mais les conditions... Bon, de toute façon...
Et en même temps, le départ.
C'est lamentable. C'est lamentable, c'est hyper triste. C'est hyper triste. Mais ce qui est lamentable, c'est qu'il soit trouvé en Occident des gens qui aient fait croire aux Afghans, enfin aux Afghans de Kaboul, disons, la bourgeoisie de Kaboul, et aux femmes afghanes en particulier, on leur a fait croire qu'on allait pouvoir rester pour les protéger. C'est pas vrai, c'était un mensonge depuis le début. Et vous l'avez rappelé, la France s'est retirée à juste titre. D'ailleurs, la France de Chirac Jospin avait été très réticente hein, dans l'engagement. C'était des forces spéciales, c'était pas beaucoup. On croyait pas beaucoup à la deuxième phase de l'opération.
Oui.
Et donc, il faut tirer des leçons, ça va bien au-delà de Biden et de l'Amérique.
Beaucoup aujourd'hui,
ça interpelle l'Occident tout entier.
Beaucoup aujourd'hui veulent que l'Europe soutienne les opposants aux talibans. Ahmed Massoud, le fils du légendaire commandant Massoud.
Qui est-ce qui dit ça?
Bernard-Henri Lévy, ce matin, dans Le Point.
Mais vous me dites
j'affirme
beaucoup.
Il y en a qui pensent à ceux qui restent en Afghanistan. J'affirme, dit Bernard-Henri Lévy, que la noblesse, la beauté, la grandeur de l'humain appartiennent ici non aux vainqueurs, mais aux vaincus, non aux barbares. À Ahmed Massoud, la résistance commence.
Et en pratique? En pratique.
Alors?
Ça veut dire quoi en pratique?
Alors qu'est-ce qu'on fait?
La seule décision que doivent prendre aujourd'hui les puissances qui sont battues, qui ont échoué, qui sont parties, la seule position à prendre, c'est quel genre de contact on a quand même avec les talibans? Ça, c'est des décisions concrètes à prendre.
Mais de leur part, ce sont de bonnes intentions. Est-ce qu'elles sont généreuses pour vous ou dangereuses?
Jean-Pierre, personne n'aime ce régime. La question qui est posée derrière tout ça, c'est est-ce que les Occidentaux vont recoloniser le monde entier? Réponse, non. Est-ce qu'on a le moyen de dissuader, de répliquer quand notre sécurité est en jeu? Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut, au-delà de ça, reprendre l'idée d'une sorte de mission civilisatrice de l'Occident autour des droits de l'homme? Ça ne marche pas.
La communauté internationale.
C'est qui la communauté internationale?
Oui, on en appelle à la communauté internationale.
Oui, mais c'est ça ne veut rien dire. C'est qui? C'est la Chine? C'est la Russie? C'est qui? C'est l'Arabie? Si c'est que les Occidentaux, dites plutôt les Occidentaux. Ça sera plus clair.
Donc vous dites ceux qui nous racontent ça sont quoi, des naïfs ou des menteurs?
Non, mais je ne vais pas me prononcer sur eux, ce n'est pas le sujet. De toute façon, ça ne compte pas. Ça n'a pas d'influence sur les événements.
Peut-être pas sur les événements, mais sur l'opinion publique.
Une petite partie de l'opinion des élites en France. Mais c'est tout. Mais dans la réalité des choses, les Occidentaux n'y arrivent pas. On n'a pas réussi à renverser en Syrie le régime affreux d'Assad. Et on aurait été incapable d'envoyer suffisamment de troupes, suffisamment longtemps, pour préserver les démocrates contre l'islamisme. C'est la leçon qu'il faut tirer. Et Biden était très courageux parce que ce qu'il a dit, c'est le contraire de ce qui est raconté en Amérique par une partie des élites, mais pas tout le temps, depuis le président Wilson, il y a 100 ans. On va rendre le monde sûr par la démocratie, pour la démocratie. Ça n'a pas toujours été le cas. Nixon n'était pas sur cette ligne, Obama non plus d'ailleurs. Donc il faut, au lieu de se convulser par rapport à des réactions franco-françaises ou pariso-parisiennes, il faut...
C'est comme ça que vous les appelez.
Vraies.
Alors mais eux, ils considèrent que ce sont des actions morales dans un univers de charia et d'obscurantisme.
Mais personne n'est pour la charia, personne n'est pour l'obscurantisme. Ceux qui résistent le plus à la charia, c'est les musulmans dans tous les pays arabes ou musulmans qui résistent tous les jours, dans leur pays, par rapport à ça.
Et
eux, ils savent très bien ce qu'est l'islamisme.
Qui s'occupe des réfugiés afghans? Comment on les accueille? Comment on les intègre, si on peut?
Ça, c'est un autre sujet. Les gens qui demandent l'asile... Il faut ramener, disons, reconcentrer l'asile sur ce qui est vrai dans l'asile. C'est-à-dire, ça a été conçu pour des gens en danger. Et là, on a bien fait de prendre tout de suite énormément de gens, de militaires, d'interprètes, de collaborateurs qui s'étaient mis en danger. Il ne faut pas refaire les harkis, qui est quand même une tâche atroce dans l'histoire de France, l'histoire des harkis. Donc, et c'est la même réaction dans les autres pays qui avaient envoyé des troupes. Ça, c'est bien. Après les réfugiés, dites-vous bien que tous les Afghans qui sortent d'Afghanistan, ils n'ont pas spécialement envie de venir en France. Hein. D'ailleurs, dans les dernières années...
Mais ils n'ont pas envie d'aller en Iran, ils n'ont pas envie d'aller au Pakistan, ils n'ont pas envie d'aller en Inde.
Ça dépend, ça dépend. Il y aura beaucoup, c'est comme dans l'affaire syrienne, il y a beaucoup de réfugiés qui préfèrent être pas trop loin dans leur région, donc il ne faut pas non plus être prétentieux et narcissique.
Donc, pour vous ce matin, défendre des droits, des valeurs, des missions universelles, c'est du blabla.
Je suis gêné parce que ça part de, disons, soyons généreux, ça part de bonnes intentions. Hein, c'est tout l'Occident, c'est les valeurs, etc. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il est peut-être temps. On a cru être les maîtres du monde après la fin de l'URSS. Il y a eu une trentaine d'interventions, entre 20 et 30. Il est temps d'analyser ça. Ça ne marche pas.
C'est pour ça que
je renvoie nos auditeurs qu'ils regardent le discours du président Biden, qui est très courageux, qui est très honnête, et qui préfigure ce que va être durablement la politique américaine. Il a dit la politique des classes moyennes. Ça veut dire la politique de tout le monde, mais pas la politique...
Oui, mais les classes moyennes, est-ce que ce n'est pas la résignation, le déclin, l'égoïsme, hein?
Non. C'est-à-dire que
désormais, on ne peut plus compter sur les États-Unis s'il y a des problèmes de sécurité dans tel ou tel pays de l'Occident.
Au contraire, je viens de dire que pour la sécurité, la capacité occidentale reste entière. La capacité dissuasive en matière nucléaire est géante. La capacité militaire des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne reste énorme. Je dis la sécurité, ça va continuer. C'est l'idée de... On va civiliser, vous voyez, la mission civilisatrice, le fardeau de l'homme blanc, tous ces trucs, l'ingérence... Ça ne marche pas. Alors peut-être que c'est regrettable. Je dis ça sans joie. Hein.
Non.
Je dis ça sans joie.
Autrement dit, Hubert Védine, il faut
la
s'habituer.
La leçon à tirer, c'est ce que dit Biden.
Et ce que disait avant lui l'Américain Huntington, il avait été très attaqué à la sortie de son livre « Le choc des civilisations ». Il dit, je fais une citation seulement, « L'intervention de l'Occident dans les affaires des autres civilisations est la principale cause d'instabilité et de conflit dans un monde aux multiples civilisations. » Donc il faut s'habituer... bien sûr qu'il n'y a pas la seule.
Il répondait à Fukuyama, oui.
Oui, oui. Et Fukuyama, tiens, on va l'écouter. Voilà ce qu'il me disait il y a quelques années.
Le fondamentalisme islamique est quelque chose d'assez récent comme phénomène. Et c'est une réaction à la menace, justement, de l'entrée des idées occidentales en l'islam. Non, de toute évidence, l'histoire, dans le sens de l'histoire événementielle, ne s'arrête pas. C'est bien davantage au niveau des idées que je pense que la démocratie libérale est devenue victorieuse.
Mais ce qu'il dit aussi, c'est que le fascisme et le communisme sont abattus. L'histoire, il faut lui dire à Fukuyama, avec raison, à vous et à Huntington, que l'histoire n'est pas finie, qu'elle ne s'arrête jamais, c'est une évidence.
Il s'est plutôt plus trompé qu'Huntington, malheureusement.
Mais il faut s'habituer à l'idée qu'il n'y a pas qu'une civilisation, celle de l'Occident. C'est une des leçons.
Il faudra réinventer la coexistence pacifique avec les autres, pas avec les islamistes, mais par exemple avec les Chinois. La question chinoise est beaucoup plus importante que tout ça. Hein.
Oui, mais à force de faire...
Le vrai défi lancé à l'ensemble de l'Occident, c'est parce que les islamistes, ils ne vont jamais gagner. Les terroristes vont jamais gagner. Jamais.
Mais si vous étiez chinois, vous diriez qu'il y a une attaque de l'Occident contre la Chine.
Non, les Chinois, ils disent c'est une preuve supplémentaire de l'affaiblissement de l'Occident. L'Occident ne peut plus mener ses expéditions pseudo-coloniales, etc.
Est-ce que vous estimez qu'il faut parler directement avec les talibans? Pour le moment, on passe par Doha, par le Qatar.
Il faut être pragmatique.
Deuxièmement, est-ce qu'on ouvre ou réouvre l'ambassade de France à Kaboul ou on attend? On a le temps.
On n'a pas besoin de prendre des décisions... spectaculaire, surtout à usage interne français, ça n'a aucune importance. Je pense qu'il faut rester pragmatique.
Comme
le font d'ailleurs la plupart des puissances, même les Américains.
Mais à force d'être pragmatique...
Attendez. Les Américains ont gardé des liens pour faire sortir un certain nombre d'Afghans liés à l'Amérique ou d'Américains qui étaient là. Il faut être pragmatique. Il ne s'agit pas de reconnaître par reconnaître, puis on n'a pas le pouvoir. Et d'ailleurs, la reconnaissance, ça ne veut pas dire qu'on approuve la politique menée.
À force, oui.
Donc,
le général de Gaulle avait dit on reconnaît la Chine, on ne reconnaît pas le régime de Mao Zedong.
C'est ce
qu'il faut continuer.
C'est dommage d'être obligé de rappeler des
évidences.
Des éléments aussi
président Emmanuel Macron intervient beaucoup sur les sujets internationaux, les grands, avec peu de résultats et d'influence. Est-ce que, comme les prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, François Hollande, qui ont fait de grands discours, ce n'est pas cause toujours sans résultat.
Mais c'est le problème des Occidentaux en général. Est-ce que les Américains ont réussi à démocratiser l'Afghanistan? Non. Il y a plein d'exemples. Il y a une liste énorme. Obama, il était tout à fait favorable à ce que se crée un État palestinien, pacifique. Mais bon, ça n'a pas réussi.
Ouais.
Donc il y a plein d'exemples qui concernent soit les États-Unis, soit la Grande-Bretagne, soit, je le reconnais, la France aussi, ou l'Europe dans son ensemble, qui montre les limites de l'influence occidentale.
Alors,
il ne faut pas tomber dans de la déprime. Il ne faut pas conclure qu'on n'a plus du tout d'influence. Simplement, on n'a plus le monopole de la puissance.
Et la France aussi.
Oui, la France en fait partie. On n'a plus le monopole. Il y a les Chinois, il y a tous les autres. Donc il faut réadapter notre politique.
À force d'être pragmatique ou réaliste, est-ce qu'on n'est pas un peu cynique, Hubert Védrine ?
Quel est le lien entre les deux ?
Je vous le fais, je vous le dis.
Je rappelle dans mon livre récent, là, le dictionnaire de la géopolitique, la vraie définition d'origine du mot cynisme. En tout cas pour les philosophes grecs, c'est la capacité à braver l'opinion dominante.
Ouais.
Donc c'est très curieux que ce mot soit devenu synonyme d'amoralisme dégoûtant.
Mais c'est pour ça que vous êtes là, parce que vous êtes souvent à contre-courant.
Je ne fais pas exprès. Bon, en tout cas, le réalisme est nécessaire. Si vous êtes en dehors de la réalité, tout ce que vous faites ne fonctionne pas.
Et nous, aujourd'hui, il faut le rappeler, aujourd'hui 11 septembre, 20 ans, jour pour jour, après l'attaque terroriste des deux tours géantes de New York, on peut dire n'oublions pas, et ça s'est produit, il était 15 heures en France. Merci Hubert Védrine. Demain, je vais recevoir un survivant de la catastrophe de New York, Christian Blanc. Un miracle ou la chance pour lui, mais son récit est glaçant. Frédéric Taddeï, bonjour.